Kiosque Magazine.
Chers auditeurs, bonjour. C'est le Kiosque Magazine du lundi qui vous arrive.
Oui. Déjà?
C'est ça.
Ça va vite, hein?
Alors, cette semaine, on va d'abord remercier Serge qui a tenu le fort la semaine dernière.
Ah oui, ben oui, ben
mais
oui.
Cette semaine, tout seul.
Et très fort.
Cette semaine, nous sommes trois. Il y a Franceline Nieuviard, comme à l'accoutumée, Serge Hamelin.
Oui,
Serge,
bonjour, Roger Roy.
Oui, et en régie, ce matin, nous avons Mathieu, qui est ici, comme à l'accoutumée, mais il y a quelqu'un qui l'accompagne, c'est Christiane Campagna.
Allô?
Bonjour. Alors, nous avons fait une incursion au rayon de la culture et de la société des magazines. Et qu'avez-vous à nous proposer, Franceline?
Alors, moi, je vous lirai deux articles tirés du Bel Âge, de la revue Le Bel Âge de juillet-août 2015. Le premier s'intitulera « En vacances avec vos petits-enfants, quelles sont vos responsabilités ?» Donc ça s'adresse surtout aux grands-parents, donc. Et le deuxième, « Alerte aux bobos de l'été », sont deux articles écrits par Jacqueline Simoneau.
Les bobos.
Oui, et puis moi, je vais parler de douane. Avez-vous quelque chose à déclarer au retour de vacances?
Oui,
et
va
je vais vous parler d'habitation, l'inspection des maisons dans les moindres recoins.
Ah oui, ça, il le faut hein, quand on veut acheter. Alors, j'y vais, moi, j'irai de deux textes. Un premier qui traite du luxe. Cacher ce luxe, pour l'interrogation. Mais pour tout de suite, viva Cuba, viva Obama, en mars 2015.
Ah oui?
13 mois après l'annonce du dégel des relations diplomatiques entre les USA et Cuba par Obama et Real Castro, Hélène de Billy, c'est la journaliste du Reader's Digest, circule sur le Malecón, le mythique boulevard à six voies qui longe le front de mer à La Havane. Elle est à bord de la Chevrolet 1948 de Augustine et ce dernier lui dit « Vous avez vu ?» Assise sur la banquette à ses côtés, je m'efforce, c'est l'auteur de l'article, je m'efforce d'identifier la forteresse El Moro, érigée au 16e et 17e siècle de l'autre côté du port pour protéger la ville des attaques des pirates. Non, ici, me corrige Augustine en désignant l'horloge en forme de hublot incorporée au tableau de bord de son éblouissante Chevy bleue. Vous voyez, insiste-t-il, elle marche, l'horloge. Son ton suggère le miracle. De fait, on a l'impression que pour beaucoup de Cubains, les horloges viennent tout juste de se remettre à tourner après un long sommeil auquel peu d'entre eux croyaient pouvoir s'arracher. En ce printemps radieux, la Havane ouvre les yeux. Dans un climat encore marqué par la disette et les derniers vestiges de la guerre froide, la ville se permet de respirer dans un nouvel esprit de liberté. Devant moi, dans un paysage languissant, j'aperçois la plaza de San Francisco de Assis, avec sa magnifique église reconstruite en style baroque au 18e siècle. On offre ici des concerts de musique classique presque tous les soirs, m'indique Augustine, devenue mon guide le temps du trajet. Fondée en 1519 par les conquistadores espagnols, La Havane compte 2,1 millions d'habitants et est peuplée d'artisans, de mécaniciens, d'employés de l'État, de bureaucrates, de femmes de chambre, de policiers, de membres du Parti communiste, d'écrivains, d'artistes, mais on y croise très peu de banquiers. Malgré ces édifices en ruine, ces rues à moitié défoncées, l'absence quasi totale de liaison Internet et la pénurie de nombreux biens de première nécessité, la capitale a énormément à offrir, à commencer par une population accueillante, cultivée, ouverte aux autres et dotée d'un solide sens de l'humour, sans lequel on ne serait jamais passé à travers les années de disette, décrète un jeune chauffeur de cyclopousse. Comme dans le Naples des films en noir et blanc où régnait la jeune Sophia Loren, il y a du linge qui sèche sur les cordes dans la Habana Vieja, la vieille ville. Dès la fin de l'après-midi, les enfants y jouent sous les arcades. Sous un ciel parfaitement bleu, rickshaws, taxis jaunes, camions et charrettes tirés par un animal slalonnent dans un ballet savamment ordonné, ponctué de coups de klaxon. Où que vous regardiez, il n'y a ni enseigne, ni galerie marchande, ni restauration rapide. Aucun label connu. Malgré ces difficultés, l'île de 11,2 millions d'habitants a accouché ces dernières décennies d'artistes talentueux, d'écrivains mondialement acclamés comme Leonardo Padura et de peintres recherchés par la Jet Set International. L'esprit inventif des compatriotes de Fidel éblouit. On veut se frotter à la réalité urbaine de l'île avant que McDonald's et Walmart ne changent la donne. On veut être les premiers à assister à l'éclosion d'une nouvelle génération de créateurs susceptibles de donner naissance à des nouvelles tendances, de nouvelles idées. Le pays se transformera-t-il en monstre avide de consommation ou encore en paradis culturel? Une sorte de suspense accompagne la métamorphose en cours. Voilà pourquoi tant de curieux se ruent sur la Havane ces temps-ci. Dans le stationnement de l'Hôtel National, je suis tombé sur un autobus aux couleurs de la Californie avec ce mot collé au pare-brise, USA Cœur, donc M Cuba. Plus loin, sur le terre-plein, devant l'hôtel, un Louisianais m'annonçait avoir emprunté avec son groupe le premier vol Nolisé à faire le trajet sans escale entre la Nouvelle-Orléans et la Havane depuis 1958. Écoute donc, raison du voyage, on se familiarisait avec la culture du pays. Mais on est aussi ouvert à la possibilité de réaliser de bonnes affaires. Les Cubains ont besoin de tout. Bon, Hélène de Billy souligne que les Cubains aiment bien les Américains et sont très heureux de la reprise des relations entre les deux pays. Le promoteur immobilier québécois Guy Chartier lui a confié que les Cubains adorent les Américains. On pourrait croire qu'après 50 ans d'embargo, ce sentiment se serait amoindri. Eh bien non, et j'en sais quelque chose, dit-il. Président-directeur général de la division cubaine de la société immobilière Dundee 360, qu'il a cofondée, Guy Chartier supervise les préparatifs en vue de la construction d'un complexe immobilier hôtelier à La Havane et d'un complexe immobilier et touristique à mi-chemin de la capitale et de Varadero, en partenariat avec le gouvernement cubain. Si je me présente dans une réunion ici avec un Américain, c'est lui, l'Américain, qui va recevoir l'accueil le plus chaleureux. Pourtant, je viens d'un pays, le Canada, qui n'a jamais rompu ses relations diplomatiques avec Cuba. Ça ne change rien. Ces deux peuples-là partagent plein de choses, et pas seulement l'amour du baseball. À mon avis, leurs retrouvailles vont se dérouler très naturellement. Sur la question délicate de la liberté d'expression, la situation aurait peu évolué, pas encore du moins. Ainsi, Hélène de Billy rencontre Pablo, qui a étudié en informatique, intelligent, sociable et plein d'humour. Pablo ne veut surtout pas voir figurer son nom dans un article publié à l'étranger. Son sourire se fige lorsqu'on évoque l'éventualité. Et j'avoue m'être complètement trompé sur le sentiment de liberté dans les rues de La Havane, car si la plupart des gens engagent la conversation aisément, la plupart ont toujours peur d'être repérés, même lorsque leurs propos sont anodins et ne visent pas particulièrement le régime. Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que la liberté d'expression puisse s'exprimer à La Havane et à Cuba, évidemment. C'est dans la sélection du Reader's Digest du mois d'août. C'est un texte signé par l'excellente journaliste Hélène de Billy.
Alors maintenant, aller à Cuba avec vos petits-enfants pour passer une semaine de vacances.
Ce serait une bonne idée.
Voilà, hein, c'est une bonne idée, vous nous avez donné, Roger. Mais prendre en charge vos petits-enfants ne va pas sans certaines obligations. Alors voilà quelques éléments pour vous repérer. Ces vacances avec vos petits-enfants, vous en rêvez depuis longtemps. Vous imaginez déjà les fous rires, les câlins, les confidences et les petits bonheurs qui seront les vôtres durant cette période privilégiée. Les valises seront bientôt bouclées, ne reste plus qu'à prendre certaines dispositions pour assurer à tous un voyage sécuritaire et sans tracas. Car en l'absence des parents, vous avez la responsabilité de veiller à la sécurité et au bien-être de vos petits-enfants. En effet, l'article 601 du Code civil du Québec dit que le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance et l'éducation des enfants. En vous confiant leurs enfants, les parents vous chargent donc provisoirement du même devoir de surveillance qu'eux. Plus encore, vous avez la responsabilité de vous assurer qu'ils ne blessent personne et n'endommagent pas les biens d'autrui. D'autre part, pas question de partir sans avoir en main tous les papiers essentiels. Voilà les documents qu'il vous faut pour voyager en toute quiétude avec vos petits-enfants. D'abord, une lettre de consentement. Ce document confirme que les parents autorisent leurs enfants à voyager à l'étranger avec vous. Être muni d'une lettre de consentement n'est pas une exigence prévue par la loi au Canada, mais c'est nécessaire à l'extérieur du pays, puisque ce document peut être exigé en tout temps par les autorités de l'immigration. À défaut de présenter une telle lettre sur demande, vous pourriez vous voir interdire d'entrer dans un pays ou d'en sortir. S'il n'est pas obligatoire de faire certifier le document par un représentant officiel, comme un notaire, un avocat, cette précaution est recommandée lorsque la garde de l'enfant fait l'objet d'un différend, afin que la validité du document ne soit pas mise en doute. Une fois préparée, la lettre doit être datée, signée par les parents et un témoin. Suggestion, les autorités ne gardent habituellement pas la lettre de consentement, mais il serait prudent d'en faire une copie. Il vous faut aussi les passeports. Tous les enfants doivent posséder un passeport canadien pour se rendre à l'étranger, même aux États-Unis. N'oubliez pas de vérifier la validité de leurs documents. Plusieurs pays exigent en effet que les passeports soient encore valides 3 à 6 mois après la date de retour. Des pièces d'identité, assurez-vous que vos petits conservent toujours une pièce d'identité sur eux. Le plus simple, c'est de leur faire porter un bracelet d'identification avec leur nom et le numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence. Ayez également sur vous des photos récentes, elles seront utiles s'ils s'égarent. Pensez aussi aux assurances. Pour que le voyage à l'étranger se déroule sans gros soucis, il est important de souscrire à une assurance voyage pour vous et vos petits-enfants, incluant une assurance responsabilité civile. Non seulement cette couverture vous apportera la paix de l'esprit si l'un d'entre vous est malade ou blessé, mais elle s'avérera d'un grand secours en cas d'éventuels dommages subis ou causés par vous, vos petits-enfants, à autrui. Les carnets de santé, apportez-les ou tout au moins photocopiez certaines infos utiles, comme le groupe sanguin, les vaccinations, les allergies. N'oubliez pas non plus les cartes d'assurance maladie des enfants si vous voyagez au Canada. Il faut aussi les ordonnances médicales. Assurez-vous d'avoir une quantité suffisante de médicaments prescrits à vos petits-enfants, pour l'allergie, l'asthme par exemple, pour toute la durée du voyage. Mais au cas où ces produits essentiels seraient perdus en cours de route, pensez à apporter les ordonnances du médecin. Vous avez aussi, bien sûr, les numéros de cellulaire et les courriels des parents. Établissez un système de communication fonctionnelle entre les parents et vous avant votre départ. Il est en effet important que vous puissiez les joindre facilement. Non seulement vos petits-enfants apprécieront de parler occasionnellement avec papa et maman, mais vous pourrez contacter rapidement ces derniers s'il y a une urgence médicale, par exemple. Une bonne idée aussi, demandez aux parents de rédiger et signer un document d'autorisation aux soins en votre faveur, dans l'éventualité où il ne pourrait être joint. Ce document vous protégera si vous devez prendre une décision d'ordre médical. Et maintenant aussi quelques consignes. Mettre vos petits casse-cou à l'abri des dangers fait partie de vos responsabilités. Pour vous faciliter la tâche, répétez-leur régulièrement les règles de sécurité et adoptez quelques mesures simples. Par exemple, à l'aéroport, ne quittez jamais les enfants des yeux. Ne les laissez jamais aller aux toilettes seuls ou dans une boutique, même s'ils s'en disent capables. Ils peuvent facilement se perdre dans un lieu inconnu. En voiture, n'oubliez pas de faire boucler la ceinture de sécurité, même pour les courts trajets. Si nécessaire, utilisez les sièges adaptés à leur poids, à leur taille, qui doivent être munis d'un système de retenue adéquat et installé correctement. Ne laissez jamais un enfant seul dans un véhicule, ne serait-ce que quelques minutes. Et pendant le trajet, maintenez les portières verrouillées pour éviter qu'un enfant ouvre la sienne par inadvertance. À la plage ou à la piscine, assurez-vous que vos petits adoptent des comportements sécuritaires dans l'eau et autour de la piscine. Les dispositifs de flottaison favorisent l'apprentissage de la natation, mais ne remplacent jamais votre surveillance. Restez à proximité et ayez vos petits à l'œil, qu'ils soient dans l'eau, sur la plage ou au bord de la piscine. Les enfants peuvent se noyer dans quelques centimètres d'eau. À la plage, respectez la zone de baignade délimitée par des bouées, ainsi que les avis de baignade dangereuses. Pour que vos trésors ne ressemblent pas à des homards le soir venu, n'oubliez pas de leur appliquer souvent de la protection solaire. Il est facile de perdre la notion du temps lorsqu'on s'amuse. Et à bord d'une embarcation, chaque passager doit revêtir un gilet de sauvetage adapté à sa taille. Assurez-vous que les vôtres le portent et de façon adéquate. Enfin, dans les aires de jeu, expliquez les règles de sécurité. On attend son tour, on ne reste pas au bas des glissoires ni trop près des balançoires. On ne se met pas debout sur la balançoire, on ne se chamaille pas, on ne se pousse pas, etc. Vous voyez ce que c'est avec les enfants. Évitez de faire enfiler aux petits des vêtements amples avec cordon, capuchon ou ceinture lâche qui pourraient se coincer dans les appareils de jeu et les étouffer. Les accidents sont vite arrivés. Faites porter aux enfants l'équipement approprié, casque, protège-coudes, genouillères, etc. durant les activités sportives. Et enfin, ne confiez vos petits à une personne ne confiez pas vos petits à une personne inconnue, même pour quelques instants. Et donc, avec tout ça, bon voyage avec vos petits-enfants.
Et monsieur, c'est tout un programme, hein?
Oh.
Le temps des vacances est enfin arrivé. On voit les enfants sont pleins de gaieté. Sur le bord de l'eau sont après s'amuser. N'allez pas trop loin, vous pouvez vous noyer. Je vous dis, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année. Dimanche passé, je suis allée me baigner. À la rivière des prairies, il y a beaucoup de dangers. Et dans le fond de l'eau, il y a de la vitre cassée. J'ai l'orteil coupé et puis l'autre déringé. Tout le monde était là qui se tordait de voir ça. Personne n'a voulu venir pour mieux secourir. Il y avait un gros chien qui pataugeait dans l'eau. Je l'ai poigné par la patte et je l'ai embarqué sur le dos. Je dis, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances, ceux qui sont arrivés. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année. Sur le bord de la grève, le chien s'est mis à japper. La peur m'a pris, puis je me suis sauvée. Le chien enragé a couru après moi, m'a poigné par la couette et l'a tout arraché. Rendu à la maison, mon chéri m'attendait. Il voulait aller à la pêche au brochet. Mais toute la veillée, il a poigné des mémés. Moi, ça a bien mordu, j'ai poigné de la morue. Je vous dis, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances, ceux qui sont arrivés. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année. Les enfants étaient là quand on est arrivé. Le prix les ménés, puis je vous dis, sont sauvés. Au parc La Fontaine, ils ont été les portés. Si vous voulez les voir, ils sont après nager. Cette jeune maman que je m'adresse maintenant, faites attention, veillez sur vos enfants. Espérant qu'à l'automne, ils vont être posés. Car au mois de septembre, les classes vont recommencer. Je dis, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances, ceux qui sont arrivés. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Faut tout oublier les fatigues de l'année. Je dis, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances, ceux qui sont arrivés. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Faut tout oublier les fatigues de l'année. Je dis, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances, ceux qui sont arrivés. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Faut tout oublier les fatigues de l'année.
Bon, avez-vous pensé à acheter une maison? Mm-hmm. Si oui, Guillaume Dayan a écrit un article dans la revue Protégez-vous. Ça s'appelle « Dans les moindres recoins, habitation, inspection. Vous souhaitez faire inspecter votre future maison et comment trouver le bon professionnel? » Oui, monsieur. Alors, même si elle n'est pas obligatoire, l'inspection est une étape importante dans le processus d'achat d'une nouvelle maison. Vous ne devriez jamais y renoncer, dit Maître Lorraine Talbot, avocate et co-auteur du guide « La responsabilité de l'inspecteur pré-achat ». L'inspection vise à trouver les vices apparents et les indices de vices cachés du bâtiment, décrit l'avocat. Ça va?
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Vérifier. Que doit vérifier l'inspecteur? Les ordres professionnels et les associations possèdent des normes de pratique distinctes. Même si toutes vont dans le même sens, elles peuvent présenter certaines nuances. Un inspecteur rigoureux doit vous remettre la norme de pratique à laquelle il se réfère avant le rendez-vous. Bon. Ce document constitue un guide précieux. Le jour de l'inspection, vous pourrez vous assurer que le professionnel vérifie bien tous les points qui y sont indiqués. Et s'il est dans l'incapacité d'examiner l'un d'entre eux, par exemple, le revêtement d'une toiture enneigée, il doit le mentionner dans son rapport et en préciser la raison. Et l'inspecteur n'utilise pour son travail que du petit outillage, lampe de poche, appareil, photo, tournevis, détecteur d'humidité, indicateur de polarité pour les prises de courant, etc., etc. Et s'il suspecte un problème sérieux, sur le plan de la tuyauterie, par exemple, il peut vous recommander de demander l'avis d'un expert comme un plombier avant de conclure la transaction. Voici une synthèse des points que doit examiner l'inspecteur et de ceux qui ne relèvent pas de son mandat selon les normes de pratique professionnelle développées conjointement par l'OAQ, l'OTPQ, l'OEAQ. Nous avons choisi ces normes conformément aux recommandations de l'ACQC. 1. Structure de la maison. L'inspecteur examine les fondations, les planchers, les murs porteurs, les plafonds et les toits, les vides sanitaires. C'est l'espace situé entre le sol en terre battue et le premier plancher d'une maison qui ne comporte pas de fondation coulée. Les surfaces qui semblent détériorées doivent être sondées, à moins que cela n'endommage un revêtement fini. Et si l'inspecteur suspecte, par exemple, qu'une poutre est abîmée par l'humidité, il pourra y enfoncer un tournevis pour s'en assurer. Extérieur. L'inspecteur examine les revêtements extérieurs des murs, les portes et fenêtres, la commande électrique du garage, les saillies, terrasses, perrons, etc., les pentes du sol et le ruissellement des eaux du terrain. Le professionnel doit bien connaître le secteur géographique dans lequel il intervient, insiste Maître Lorraine Talbot. En Montérégie, par exemple, il pourrait vous recommander une expertise du sol pour vous assurer qu'il n'y a pas eu utilisation de pyrite pour le remblai lors de la construction des fondations. Ensuite, la toiture. L'inspecteur examine les revêtements du toit, les gouttières, les cheminées, les combles entre toits, s'ils sont accessibles. Sous les combles, le professionnel recherche notamment des traces d'humidité. Il doit vérifier l'isolation, la présence de pare-vapeur, la ventilation et le type d'isolation qui s'y trouve. Il n'a cependant pas à examiner les accessoires tels que les capteurs solaires ou les antennes. Bon. De mauvaises conditions météorologiques peuvent rendre délicat l'examen du toit et le travail de l'inspecteur devant s'effectuer sans risque pour les personnes, ne vous attendez pas à ce qu'il marche sur le toit. Lorsque la météo s'y prête, indique Guy Chiasson, l'inspecteur peut utiliser une échelle. Y accéder. Il pourra alors faire un examen attentif du toit à partir du rebord et éventuellement vous alerter, par exemple, à propos d'une pente trop faible susceptible de retenir la neige et de provoquer des problèmes de condensation si l'étanchéité n'était pas parfaite. Chauffage. 4. L'inspecteur examine le générateur de chaleur principal et son système de distribution. La présence de sources de chaleur dans chaque pièce habitable. Il n'est pas contraint toutefois de vérifier l'intérieur du générateur de chaleur, c'est-à-dire la chambre de combustion de la chaudière, la conformité aux normes des cheminées et de leurs accessoires, les humidificateurs, les filtres à air électroniques et le fait que chaque pièce soit suffisamment chauffée. 5. L'électricité. L'inspecteur examine l'entrée électrique, la mise à la terre et le dispositif de protection générale, le bon fonctionnement des disjoncteurs différentiels qui protègent les circuits de surcharge et de court-circuit, le fonctionnement des systèmes d'éclairage, des interrupteurs et des prises, la polarité, raccordement correct des fils, la mise à la terre de toutes les prises exposées à l'humidité dans la cuisine et la salle de bain, dans le garage et à l'extérieur de la maison. Il n'a cependant pas à vérifier les câblages de téléphone ou de télévision, les caméras de surveillance et les systèmes d'alarme. Ensuite, il y a la plomberie. L'inspecteur examine la tuyauterie, la robinetterie, le débit de l'eau, le chauffe-eau. Ensuite, 7. Ventilation et climatisation. L'inspecteur examine le système central de climatisation, sa source d'énergie, les systèmes de ventilation, d'évacuation de l'air. Et finalement, s'il lui reste du temps, l'inspecteur examine les murs de séparation, les planchers et plafonds des pièces, les fenêtres et les portes. Avez-vous toujours envie d'acheter une maison? Oh, je suis fatigué. Alors, merci. Ça m'a fait plaisir de vous lire tout ça et j'espère que vous avez pris en note. Et puis, comme il y a beaucoup d'aspects, regardez donc dans le Protégez-vous du mois d'août. OK? Ça a été écrit par Guillaume Dayan. Merci.
Alors, quelques brèves avant la pause. C'est la saison des tomates. Savez-vous la valeur nutritive d'une tomate de grosseur moyenne? Eh bien, c'est 23 calories, 5 grammes de glucides, 29 mg de vitamine C. Ça correspond à 39% de l'apport quotidien recommandé. 1,3 g de fibres, 246 mg de potassium. C'est faible en calories, riche en vitamine C. Donc, la tomate se distingue par sa teneur en lycopène, un antioxydant qui réduit le risque de cancer de la prostate et probablement d'autres types de cancers. Lorsque la tomate est cuite, le lycopène est mieux absorbé par l'organisme. Et surtout, la tomate, c'est tellement bon.
Oh oui, mais il ne faut pas la gaspiller.
Est-ce un fruit ou un légume?
Ah, c'est une question existentielle. Nous n'aurons pas la réponse aujourd'hui. Par la nourriture, ailleurs dans le monde, la lutte contre le gaspillage de produits comestibles, doit devenir une priorité selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies qui veille sur les questions alimentaires. Savez-vous que le nombre de tonnes de nourriture gaspillées chaque année dans le monde est de 1,3 milliard. C'est en dollars, je pense. 750 milliards de dollars, ce sont les pertes économiques liées au gaspillage de la nourriture. Et certains pays y voient. Par exemple, le gouvernement de la France vient d'adopter une loi qui interdit aux grandes surfaces de jeter leurs invendus et les oblige à conclure des ententes avec des organismes charitables pour s'assurer que les aliments soient redistribués. Au Québec, on compte plusieurs organismes particulièrement dynamiques quand vient le temps de redistribuer de la nourriture encore tout à fait propre à la consommation. La Tablée des chefs, par exemple, redirige les plats invendus des restaurants, des grands hôtels vers des centres pour les jeunes, tandis que Moisson Montréal récolte les invendus des supermarchés pour les redistribuer dans des organismes communautaires.
Et puis moi, j'ai une tasse à planter. Une nouvelle option s'offre au buveur de café sur le pouce, une tasse à emporter cartonnée dont les fibres contiennent des graines de végétaux à planter dans le jardin. Il suffit de mouiller le gobelet puis de l'enterrer. Vous n'avez pas la place? Certains commerçants récupéreront les tasses pour les donner, par exemple, à un organisme de revitalisation des espaces verts. Le premier modèle contient des graines adaptées au climat de la Californie, mais des prototypes viables ailleurs sont en développement. C'est beau, hein?
Ah oui?
Oui.
On plante des tasses, est-ce que j'ai bien compris?
Ah, c'est ça, planter des tasses. Ah, mon Dieu. Ah.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et le kiosque du 16 août se poursuit?
17 août.
Du 17, vraiment, les chiffres et moi.
Arrivé en ville.
Ne font pas bon ménage. Je commence, nous avons encore une demi-heure, hein, à vous proposer des textes. Et je commence par un texte signé par Julie Barlow. Elle a intitulé son papier, c'est publié dans l'actualité du mois d'août, « Cacher ce luxe? » Point d'interrogation.
OK.
Et elle commence par un vers.
On vous écoute.
Un vers célèbre de Baudelaire, luxe, calme et volupté. Ce vers de Baudelaire semble avoir inspiré l'hôtel Quintessence dans les Laurentides que TripAdvisor classe parmi les 25 meilleurs hôtels de luxe au Canada.
Ooh.
Les 30 chambres avec foyer...
Quel hôtel, ça?
C'est l'hôtel... Attendez. Dans les Laurentides. L'hôtel Quintessence.
Quintessence.
Le nom même, hein? Les 30 chambres avec foyer et vue sur le lac Tremblant se louent entre 500 et 1 800 $ la nuitée en haute saison.
Intéressant.
Au restaurant, la carte compte des bouteilles à 13 000 $ et le client profite de petites attentions. Le matin, par exemple, les chaussures de ski sont chauffées, dit Michel Tremblay, directeur général qui veille à chaque détail.
Ouais.
Mais il n'est pas question de luxe.
Non.
On a rayé ce mot de notre vocabulaire, dit-il. Au Québec, luxe égale inabordable. Et les gens craignent d'être jugés. Le luxe suprême serait-il de s'offrir une nuitée à 1 800 $ sans que ce soit du luxe? Il suffit de poser quelques questions autour de soi pour constater que le luxe ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Objet rare et hors de prix pour les uns, temps libre pour les autres. Le mot lui-même semble péjoratif au Québec. À la bijouterie Birks, phare montréalais de l'industrie canadienne du luxe, on est mal à l'aise avec le terme. Le groupe Birks refuse d'aborder le sujet par respect pour nos clients, dit Francis Guindon, chef des relations publiques. C'est à se demander si le luxe n'est pas devenu une maladie honteuse. Mais il y a luxe et luxe. Le petit Robert propose quelques définitions. « Je me paierais bien ce petit luxe » fait référence à un bien ou un plaisir coûteux que l'on s'offre sans nécessité. « Une chambre de luxe » décrit un espace somptueux. « C'est du luxe » fait plutôt allusion à un acte inhabituel et particulièrement agréable ou une trop grande quantité. Mais la définition qui heurte, c'est la première qui vient du latin « luxus », excès, splendeur. Un mode de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées à l'acquisition de biens superflus, par goût de l'ostentation et du plus grand bien-être. Les Montréalais Byron et Dexter Payard s'y connaissent en matière de luxe. Les jumeaux de 42 ans ont lancé en 2006 la marque de maroquinerie haut de gamme Want, les essentiels de la vie. Leur sac à main, portefeuille et autres articles sont vendus jusqu'à 3 000 $ pour une valise un peu partout dans le monde. La vieille idée du luxe, telle que définie par les élites historiques, s'est dépassée, dit Byron Payard. Définir le luxe, c'est une cible mobile. Marie, avocate de 40 ans, menue, aux longs cheveux bruns, toujours élégante, ne voit rien de honteux dans la quête de belles choses. C'est pour elle un loisir dont elle parle avec joie, à condition de taire son nom de famille. « Le luxe, c'est tout ce qui est meilleur que la moyenne », dit-elle. Les sociologues s'entendent sur un point, le luxe n'est pas que plaisir personnel. Dans la notion de luxe, il y a recherche du confort, mais toujours aussi la démonstration de son statut, dit Simon Langlois, expert de la sociologie de la consommation à l'Université Laval. En matière de luxe, les Québécois forment une société distincte. D'abord parce que les amants québécois du luxe ont tendance à se cacher, mais aussi parce qu'ils sont peu nombreux à avoir les moyens de se payer excès et splendeur. 3 fois plus d'Ontariens gagnent davantage que 250 000 $ par année, selon l'agence Sotheby's. 7 527 maisons de prestige de plus d'un million de dollars ont changé de propriétaire à Toronto en 2014, soit 17 fois plus qu'à Montréal. Les grandes marques sont également moins nombreuses à avoir pignon sur rue au Québec. Gucci est certes offerte chez Holt Renfrew, mais là encore, le magasin montréalais est beaucoup plus petit que celui de Toronto. C'est d'ailleurs à Toronto que Saks Fifth Avenue aura bientôt sa première adresse canadienne, tout comme la chaîne Nordstrom qui s'y installera en 2016. Même si une Rolex a la même connotation partout sur la planète, dit le professeur Simon Langlois de l'Université Laval, la définition du luxe diffère d'une culture à l'autre. Dans les sociétés protestantes, par exemple, la prospérité est considérée comme un signe de la providence. Oui. Jai Jung de l'Université du Delaware a mené une étude sur le sujet en 2012. Pour les Allemands, dit-elle, le luxe est dans la fonctionnalité. Pour les Français, il égale qualité. Les Américains, ce qui leur importe, c'est le bien-être qu'ils retirent de leurs biens. Pour eux, le luxe est une expérience. Mais tout est relatif, n'est-ce pas? On a posé une question à Mme Josée Blanchette du Devoir, qui dit ceci au sujet du luxe. « Quand nous étions aux études dans les années 1980, on se contentait d'une étagère faite de briques et de planches. Aujourd'hui, les jeunes veulent du IKEA. On aurait considéré ça comme du luxe, mais la barre est plus haute aujourd'hui. » C'est dans l'actualité du mois d'août.
Alors maintenant, alerte aux bobos de l'été, les bobos liés aux insectes et aux végétaux surtout. La première, les piqûres de guêpes et d'abeilles. Rougeur, les symptômes d'une piqûre de guêpes ou d'abeilles, rougeur, douleur, sensation de chaleur ou de brûlure, enflure, démangeaison. Les piqûres de guêpes ou d'abeilles peuvent aussi déclencher chez certains une réaction allergique grave avec notamment des difficultés respiratoires. Dans ce cas, il faut composer immédiatement le 911. Sinon, on pose le traitement pour une piqûre de guêpe ou d'abeille. On pose une compresse d'eau froide sur les piqûres pour calmer la douleur et réduire l'enflure. On fait suivre d'une crème à la cortisone éventuellement. Et si les démangeaisons sont intenses, on prend de l'acétaminophène ou un antihistaminique oral. On peut appliquer aussi de la calamine sur la zone affectée et ajouter une préparation à base d'avoine, genre Aveeno, à l'eau du bain. Ne grattez pas la plaie, vous aggraveriez les démangeaisons et risqueriez d'infecter la zone. S'il s'agit d'une piqûre d'abeille ou de guêpe, retirez d'abord le dard avec précaution à l'aide d'une pince à épiler stérilisée à l'alcool. On ne l'écrase pas pour ne pas faire pénétrer le venin plus profondément. En prévention, on porte des vêtements clairs, on bannit les produits parfumés. On applique sur la peau exposée une formule insectifuge à base de DEET, particulièrement le soir, tôt le matin ou après la pluie. On garde les aliments dans des contenants fermés. On surveille bien la nourriture et les boissons avant de les porter à la bouche pour s'assurer qu'une guêpe ne s'y trouve pas. On ne laisse jamais traîner aucun déchet de table. Si une guêpe vous embête, évitez tout mouvement brusque. Si elle se pose sur vous, laissez-la partir d'elle-même ou repoussez-la délicatement. Si elle entre dans la voiture, simplement ouvrez les fenêtres, elle sortira d'elle-même. Maintenant, la maladie de Lyme. Les symptômes, la rougeur est le symptôme le plus fréquent quand on a été piqué par une tique porteuse d'une certaine bactérie. Elle s'étend cette rougeur rapidement pour atteindre plus de 5 cm et prend l'apparence d'une cible, c'est-à-dire le centre clair et le contour plus foncé. D'autres symptômes peuvent accompagner cette rougeur, fièvre, fatigue, maux de tête, raideur à la nuque et douleurs musculaires. Les premiers symptômes apparaissent généralement de 3 à 30 jours après la piqûre.
Oh.
Oui, il y a un délai là, des fois. Le traitement, c'est la maladie se soigne à l'aide d'antibiotiques. La durée du traitement dépend du stade de l'infection. Si la maladie n'est pas traitée rapidement, elle peut entraîner des problèmes cardiaques, neurologiques et articulaires. C'est sérieux. Ces problèmes peuvent apparaître dans les semaines, les mois et les années qui suivent la piqûre. Cela dit, le risque d'attraper la maladie est faible si la tique reste accrochée à la peau moins de 24 heures. Il est donc important de repérer et de retirer la tique le plus rapidement possible. Pour enlever une tique, on emploie une pince à épiler. On n'utilise ni les doigts ni les ongles qui pourraient écraser la tique et la tête contaminée pourrait rester accrochée à la peau. On tire la tique doucement sans la tourner ou l'écraser et on nettoie ensuite la peau avec de l'eau et du savon. En prévention, lors de vos balades en forêt, portez un chapeau, des chaussures fermées et des vêtements longs aux couleurs pâles qui vous aideront à repérer les tiques. On utilise un chasse-moustique, on marche dans les sentiers pour éviter les hautes herbes susceptibles d'héberger les tiques. Au retour d'une randonnée dans une zone boisée, on prend une douche et on examine attentivement tout le corps. On n'oublie pas non plus de vérifier régulièrement les animaux domestiques qui sont, eux, peuvent être aussi porteurs de tiques. Autre insecte qui donne la maladie du virus du Nil occidental. La plupart des gens qui ont été infectés par un moustique porteur du virus du Nil occidental n'ont aucun symptôme. Toutefois, une personne sur 5 souffrira de maux de tête, de fièvre, de douleurs musculaires ou articulaires et parfois de rougeurs de 2 à 14 jours après avoir été piqué. Moins de 1% des personnes touchées présenteront pourtant des complications, telles une méningite ou une encéphalite. Les personnes de 50 ans et plus et celles dont le système immunitaire est affaibli sont les plus susceptibles de présenter des complications. En prévention, au niveau du traitement, il n'existe actuellement aucun traitement spécifique ni vaccin contre le virus du Nil occidental. La plupart des personnes infectées guérissent sans traitement. Les cas graves d'infection sont traités en milieu hospitalier. En prévention, lors de vos activités en plein air, portez des vêtements longs et clairs. Rappelez-vous que les moustiques sont particulièrement actifs au lever et au coucher du soleil. Appliquez un chasse-moustique à base de DEET sur les parties du corps non protégées par des vêtements. Vérifiez l'état de moustiquaire de votre résidence. Éliminez l'eau stagnante qui s'accumule dans des contenants ou des cavités à l'extérieur. Les moustiques peuvent se reproduire partout où il y a de l'eau, même en quantité infime.
En cas de canicule, on reste chez soi.
Eh oui, avec de l'air climatisé. Maintenant, par rapport aux végétaux, vous connaissez l'herbe à poux qui provoque congestion, écoulement nasal, éternuement répétitif, picotement des yeux, de la gorge, du palais et des oreilles, des larmes aussi. Le pollen de la plante provoque le rhume des foins, mais parfois aussi la sinusite, l'asthme et la conjonctivite. Les antihistaminiques vendus sans ordonnance réduisent les symptômes. On peut consulter son pharmacien à ce propos. On peut également combiner l'antihistaminique à un décongestionnant, à condition de ne pas l'employer durant plus de 3 jours consécutifs pour éviter un effet rebond. On utilise aussi une solution saline pour diminuer la congestion nasale. En prévention, bien sûr, éliminez l'herbe à poux de votre terrain. On garde portes et fenêtres fermées, surtout la nuit, puisque la pollinisation se produit tôt le matin. On utilise donc, comme je disais, un climatiseur dans la maison et dans la voiture. On programme les activités extérieures durant l'après-midi et la soirée, car la quantité de pollen tend à diminuer à mesure que la journée avance. On consulte aussi l'indice de pollen sur la chaîne météo. On reste à l'intérieur lorsqu'il est élevé. J'ai vu aussi que la pluie chasse le pollen. Donc, abstenez-vous de sortir par temps chaud, sec et venteux, mais quand il pleut, il y a moins de pollen dans l'atmosphère. Et enfin, l'herbe à puce, qui provoque des démangeaisons, des éruptions rougeâtres, des enflures, des cloques. Cette dermatite se manifeste 24 à 48 heures après le contact avec la sève de la plante. Donc là aussi, comme traitement, l'eau froide dilue la sève et referme les pores, ça empêche la pénétration des poisons. Et en prévention, on apprend à reconnaître la plante et à l'éliminer de nos terrains.
Et elle n'aura pas le temps de nous décrire ces plantes-là ce matin.
Ben non, pas vraiment. Puis ce sera un petit peu compliqué visuellement comme ça, et ça manque de... On n'a pas la télévision. Alors voilà, c'était donc écrit par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge de juillet-août 2015, Alerte aux bobos de l'été.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Moi, je voulais les sortir de port à la voile. La nuit parée des étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown. La belle Peggy du saloon. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman. Allô, maman, bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau.
C'était beau. Oui, allô, c'était... maman, Bobo.
Oui, c'est Alain Souchon qui chantait cette...
Oui, Bobo, c'est beau. Hey, bon, alors, vous allez aux États-Unis, vous n'y êtes pas encore allé cet été, et puis là, vous décidez d'y aller. Alors, moi, j'ai des petites nouvelles pour vous. Vous avez quelque chose à déclarer au retour? Un article écrit par Guillaume Dayan. Les vacances terminées, c'est le moment de plier bagages. Faites en sorte que les formalités entourant votre retour au Canada se déroulent sans anicroche. Vous avez prévu rapporter de voyage quelques présents pour vos proches. Sachez qu'à votre retour au pays, vous devrez déclarer tout ce que vous avez acheté durant votre séjour, que vous rapportiez les marchandises vous-même ou que vous les ayez fait expédier. Et même les cadeaux, prix et récompenses que vous avez reçus doivent être déclarés. Et au moment de franchir la douane, vous devez mentionner leur valeur en dollars canadiens. Afin de faciliter leur inspection, n'emballez pas les produits que vous rapportez. Et pour corroborer votre déclaration et la durée de votre séjour hors du Canada, les agents de services frontaliers peuvent demander à voir les reçus des biens que vous avez achetés. Ayez-les sous la main. Vous avez droit à... Vous avez fait une virée de magasinage au Vermont, par exemple. Okay? Alors, si vous êtes demeuré à l'étranger moins de 24 heures, l'agence de services frontaliers du Canada exigera des droits de douane et percevra les taxes sur les biens que vous y avez acquis et que vous rapportez avec vous. Dans le cas où votre séjour à l'étranger a duré 24 heures ou plus, aucun droit ou taxe ne sera perçu si la valeur des biens, autres que l'alcool et le tabac, ne dépasse pas 200 $. Cette exemption s'élève à 800 $ pour tout séjour de 48 heures ou plus. À partir de 7 jours, les marchandises achetées ou reçues, à l'exception de l'alcool et du tabac, peuvent franchir la douane par la poste ou par un service de livraison après votre retour au Canada. Et si la valeur des biens rapportés dépasse les montants des exemptions auxquelles vous avez droit, vous devrez payer la TPS et la TVQ et les droits de douane sur le montant excédentaire.
800 $, hein?
Oui, monsieur, 48 heures et plus. Une escapade aux États-Unis. OK. Alors, pour éviter toutefois que les douaniers ne transforment votre copieux dîner en légère collation, veillez à emporter seulement des produits autorisés. En voici une liste non exhaustive. Les fruits et légumes. Bon, je ne sais pas si on va parler de la tomate. Ils sont acceptés si leur origine canadienne est clairement indiquée. Ils doivent être propres et dépourvus d'insectes ou de traces de pourriture. Leur déclaration à l'agent des douanes est obligatoire afin qu'il procède à une inspection. La viande, maintenant. Son importation est généralement interdite chez nos voisins du Sud, mais les Canadiens bénéficient d'un régime de faveur. Un charcoal steak au Vermont, tu sais. Ainsi, la viande de porc et de volaille, dont l'origine canadienne est notifiée, peut être importée. Conservez la charcuterie dans son emballage avec l'étiquette de provenance jusqu'à votre passage à la douane. La viande de bœuf, de veau ou de bison peut également passer la frontière dès qu'il s'agit d'une quantité ne dépassant pas 22 kilos. Le bois, maintenant.
Bison, on peut... Hein,
le pas... bison. Oui. Le, pas le bisou, le bison. Le bois, maintenant. Écoutez bien, ça, c'est bon. Si vous envisagez faire un barbecue ou un feu de camp, sachez que vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis avec du bois.
Ah non!
Non. Les autorités américaines justifient cette interdiction par la présence au Canada de longicornes et d'agril Dufresne, perçus comme une menace pour les forêts américaines. Bon... Les marchandises destinées à un usage personnel, tels que des vêtements ou des bijoux et portant les mentions fabriquées au Canada, fabriquées aux États-Unis ou fabriquées au Mexique, sont exemptées de droits de douane, mais non de taxes en vertu de l'accord de libre-échange nord-américain. Les taux des droits de douane établis par le ministère des Finances du Canada varient selon la nature des marchandises importées et le pays où elles ont été fabriquées. Les produits alimentaires, j'en ai une bonne. Attention. De manière générale, les denrées périssables à court terme, comme la viande et les légumes frais, sont interdites. Mais certaines exceptions existent. Pour les connaître, vous pouvez consulter le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, qui met à votre disposition un moteur de recherche qui, selon la nature de l'aliment et sa provenance, vous indiquera s'il peut traverser la frontière. Voyez l'encadré « Une escapade aux États-Unis ». Cependant, Même si le produit périssable est accepté, vous devez demander une autorisation au Centre de service national à l'importation de la CIA et de remplir le formulaire nommé « Demande de révision numéro 5272 » que vous faxerez. Une tracasserie administrative qui pourrait bien vous prendre plus de temps que vous n'en mettrez à déguster vos précieux produits d'importation. Oui. Les aliments non périssables, le foie gras en conserve, par exemple, peuvent être importés au Canada. L'étiquette du producteur avec la liste des ingrédients doit impérativement figurer sur l'emballage. Le fromage, ça, écoutez, ça, ça vaut la peine, peut aussi traverser la frontière. La valeur maximale permise est de 20 $. Si vous dépassez ce montant, vous devrez payer un droit de douane de l'ordre de 200%.
200%.
Oui, alors vaut mieux acheter le fromage chez Provigo.
Ah, du cheddar, c'est un peu cher.
Les biens interdits ou soumis à restriction. Ben, on s'en doute, hein, il est défendu de passer la frontière avec du matériel obscène, de pornographie juvénile, ainsi qu'avec de la propagande haineuse. Certains produits de consommation qui semblent à première vue inoffensifs sont également interdits, comme les marchettes.
Hein?
Oui, les marchettes pour bébés.
Ah,
pas pour les personnes âgées, là. Comme les marchettes pour bébés. Ou les graines de jequirity.
Ah, c'est très connu.
Non.
C'est connu, ça. Utilisées dans la fabrication de bijoux artisanaux, par exemple. Ah, ben. D'autres articles sont sujets à restriction ou autorisation préalable. Il en va ainsi des médicaments d'ordonnance et en vente libre, quantité limitée à une unité de traitement ou un approvisionnement de 90 jours. De certaines antiquités, ah oui, des armes, des explosifs et des pièces pyrotechniques. Les montants en espèces maintenant, ça je parle pour les gens qui sont riches. Il n'y a pas de restriction quant au montant d'argent que vous pouvez importer au Canada ou exporter du pays. Dans les deux cas, toutefois, vous devez déclarer à un agent de service frontalier les montants supérieurs à 10 000 $. Les devises qui ne sont pas déclarées peuvent faire l'objet d'une saisie ou entraîner l'imposition de pénalités variant de 250 à 5 000 $. Voyez-vous ça? Si vous omettez volontairement ou non de déclarer un produit qui se trouve dans vos bagages, les douaniers pourraient vous le confisquer. Conformément à la loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, vous pourriez recevoir une ou des amendes allant de 500 à 1300 $ par article non déclaré, sans parler d'éventuelles poursuites judiciaires. Si vous estimez avoir dans vos bagages des produits dont l'entrée au Canada est interdite, vous pouvez toujours vous en débarrasser en les déposant dans une boîte prévue à cet effet avant de passer devant un agent des services frontaliers. Alors, il y a toujours quelqu'un qui se tient de proche de ces boîtes-là qui récupère le tout, qui retourne chez lui aux États-Unis.
Ah, comme ma bouteille de vin, oui.
Ah, c'est merveilleux. Alors, bon voyage.
Alors, encore une brève à propos des tomates, toujours, mais cette fois, connaissez-vous le vin de tomate?
Le vin de tomate.
Oui, Pascal Miche, du domaine de la Vallée du Bras, dans la région de Charlevoix, produit un vin apéritif de tomate, dont la recette a été mise au point en Belgique par son arrière-grand-père, mise sur le marché sous le nom d'Omerto, du nom du fameux aïeul qui s'appelait Omer. Ce produit unique au Québec utilise les mêmes procédés de fabrication que le vin, c'est-à-dire concassage, vinification, macération, pressage. Impossible cependant de goûter la tomate dans le produit final.
Bon.
Ça s'apparente apparemment à un pinot des Charentes.
Regardons ça. Ah. Ah, des ordonnances médicales confuses, ça c'est dans la sélection du Reader's Digest, ça sent plutôt à des diagnostics, là. Le deuxième jour, le genou allait mieux et le troisième jour, il avait disparu.
Bon. Ah.
Maux de tête occasionnel, constant, peu fréquent. C'est un peu confus. Hmm. Les antécédents sociaux révèlent que ce patient, âgé d'un an, ne fume pas, ne boit pas, et qu'il est actuellement sans emploi. Dernier diagnostic, perte de sensibilité des orteils jusqu'au bas du corps. Serge, en avez-vous des brèves?
Oui, fromage au frais.
Oui.
Oui, bon. Alors, comment bien conserver vos fromages fins entre deux pique-niques, s'ils ont réussi à passer la douane? Retirez-les de leur emballage plastifié et recouvrez-les de papier ciré, doublé d'une feuille de papier d'aluminium. Ah, vous ne saviez pas ça, hein? Regroupez ensuite les fromages du même type dans un contenant hermétique afin qu'ils n'absorbent pas les odeurs d'autres aliments du frigo. Et puis, évitez à tout prix les pellicules plastiques et les sacs refermables. Ils empêchent les fromages de respirer, ce qui favorise la dégradation de leur croûte ou de leur pâte. Ah,
c'est bien.
Alors, merci, ça ouvre Serge. L'appétit. C'est merveilleux.
C'était ce que nous avions vous proposé en ce 17, je pense, ou 16?
Oui, 17. Le 17, oui. Roger.
Bon, alors, Francine Nieuviard, oui. Serge Amelin, Roger Roy, nous vous disons au revoir et à la prochaine en soulignant aussi le travail en régie de Mathieu.
Oui, merci.
À la semaine prochaine.
Au revoir. Bye.